Et tout d'abord, on va peut-être faire remarquer que le premier à être dans cette dimension de recherche, c'est Dieu lui-même. En effet, le Verbe fait chair est venu à notre recherche, et ça, il faut vraiment s'en rendre compte. Et dans Gaudium et Spes, au numéro 22, donc c'est dans Vatican II, bon, il est dit en quelque sorte que par l'incarnation, Dieu s'est en quelque sorte uni à tout homme, et que le mystère de l'homme ne s'éclaire que dans le mystère du Verbe incarné. Et c'est vrai que nous, on recherche Dieu, ou on peut le rechercher, enfin il faut le rechercher, mais le Verbe fait chair a fait le chemin inverse. Il a fait le chemin inverse pour venir à notre rencontre. Et aussi, dans l'encyclique, il y a une très belle phrase sur laquelle que nous devons profondément méditer et que nous devons, pour laquelle nous devons être convaincus. C'est que la confession chrétienne de Jésus, unique sauveur, affirme que toute la lumière de Dieu s'est concentrée en lui, dans sa vie lumineuse, où se révèle l'origine et la consommation de l'histoire. C'est-à-dire que, en Jésus, le Verbe fait chair, il y a tout Dieu. Voilà, il y a toute la lumière de Dieu. Toute. Aujourd'hui, pourquoi il est tellement important d'insister là-dessus ? Parce qu'aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que Jésus, le Verbe fait chair, a apporté une lumière de Dieu, mais pas toute la lumière. Mais qu'il y a d'autres prophètes, d'autres hommes au cours de l'histoire qui vont venir compléter cette lumière. Et c'est un courant qui, on est très relativiste aujourd'hui, qui gagne même les chrétiens, même les catholiques. Voilà. Il faut croire que toute la lumière est concentrée en Jésus, toute la lumière de Dieu. Il n'y a aucune expérience humaine, aucun itinéraire de l'homme vers Dieu qui ne puisse être accueilli, éclairé et purifié par cette lumière. Tout passe par la lumière de Jésus, forcément. Voilà. Alors, on va se poser, après, on va réfléchir sur un deuxième point. La lumière de la foi éclaire le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Et c'est écrit dans l'encyclique, la lumière de la foi en Jésus-Christ éclaire aussi le chemin de tous ceux qui cherchent Dieu et offre la contribution spécifique du christianisme dans le dialogue avec les adeptes des diverses religions. Benoît XVI a eu à cœur de sortir peut-être certains catholiques d'un certain égarement par rapport au dialogue interreligieux. En effet, Benoît XVI a beaucoup insisté pour dire le dialogue interreligieux, c'est bien, il a essayé de le promouvoir. Mais il a dit, faisons attention, il est bien que nous unissions pour rechercher la paix dans notre dialogue interreligieux, que nous nous mettions à l'écoute les uns des autres, qu'il y ait une certaine reconnaissance ensemble de nos valeurs communes, mais il faut aller plus loin. Le dialogue interreligieux doit aller plus loin. Il doit y avoir, dans le dialogue interreligieux, vraiment une recherche de la vérité. Et il faut se mettre en quête pour chercher les fondements ultimes de la vérité. Et ne pas avoir peur, justement, de rechercher cette vérité. Et il dit, ben justement, nous, il l'a dit dans une rencontre interreligieuse, c'était aux États-Unis, donc en 2008, il dit, ben voilà, pour nous, Jésus de Nazareth, et telle est notre foi, c'est le logos éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, logos ? Ça veut dire verbe, ça veut dire celui qui donne le sens. C'est la parole. Et il s'est fait chair pour réconcilier l'homme avec Dieu et révéler la raison qui se trouve à la base de toutes les choses. Voilà. Et c'est lui que nous apportons dans le forum du dialogue interreligieux. Le désir ardent de suivre ces traces pousse les chrétiens à ouvrir leurs esprits et leurs cœurs au dialogue. Donc, si vous voulez, le fait que nous soyons conscients par notre foi que Jésus est le concentré de toute la lumière divine, qu'il est celui qui donne sens à toute chose, eh bien, forcément, nous devons l'apporter aux autres pour les aider à se mettre en recherche et pour les aider dans leur recherche, pour les illuminer en quelque sorte. Ce n'est pas nous qui les illuminons, mais c'est ce à quoi nous croyons. Voilà, ça c'est très important de dire, ce n'est pas nous qui les illuminons. Voilà. Alors, on peut se poser cette question, quelle est la valeur d'un incroyant, d'un incroyant, enfin voilà, pour Dieu? Est-ce qu'il a quand même une certaine valeur? Alors c'est une question à laquelle il n'est pas aisé de répondre, mais dans l'encyclique il est dit « L'homme qui cherche est déjà dans la lumière de la foi ». C'est-à-dire que celui qui cherche, qui n'a pas encore complètement trouvé, il est déjà habité un peu par cette lumière, déjà un peu éclairé, parce qu'il s'est mis en chemin vers cette lumière. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Et dans l'encyclique, il est dit aussi que Dieu ne peut pas faire autrement que lui donner la lumière. Voilà. Celui qui cherche, Dieu ne peut pas lui donner autrement, lui faire autrement que de lui donner la lumière. Mais en même temps, il y a une condition pour cela. Pour que cette lumière soit reçue, il faut qu'on le recherche avec un cœur sincère. Voilà, c'est dit dans l'encyclique aussi. Dans la mesure où il s'ouvre à l'amour d'un cœur sincère et se met en chemin avec cette lumière qu'il parvienne à saisir, il vit déjà sans le savoir sur le chemin vers la foi. Alors celui qui se met en chemin pour faire le bien aussi, s'approche déjà de Dieu. C'est important de le réaliser que celui qui vit en conformité avec sa conscience et qui veut faire le bien et rejeter le mal est déjà en chemin pour trouver Dieu. Et Dieu l'éclairera. Voilà. Alors, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire de ce point de vue-là, mais on ne peut pas le faire. Alors, aussi, dans l'encyclique, il est question des chercheurs de Dieu d'aujourd'hui. Ce sont, les rois mages sont l'image des chercheurs de Dieu aujourd'hui. Ils ne connaissaient pas Dieu, mais ils cherchaient quelque chose de plus. Alors, ils se sont mis en chemin, ils ont aperçu une étoile. Et parce qu'ils étaient en recherche, ils vont faire attention à cette étoile. Ils vont faire attention à cette étoile et ils vont la suivre. Mais c'est très intéressant, dans le récit évangélique, on voit que cette étoile se cache. Eh bien parce que tout chemin de recherche est chaotique. Tout chemin de recherche se fait de doute. Et parfois, cette étoile, cette lumière qu'on avait cru percevoir, ça dépend à quel moment de la vie dans lequel nous sommes, on ne la voit plus. On ne la voit plus. Mais si on continue à chercher, elle réapparaît. Mais Benoît XVI, dans une de ses homélies, disait « Mais même l'étoile n'aurait pas suffi. » Enfin, oui. Qu'est-ce qui a convaincu les rois mages que cet enfant était le roi des Juifs et le roi des peuples? C'était le signe de l'étoile, peut-être. Mais l'étoile n'aurait pas suffi si les rois mages n'avaient pas été des personnes profondément ouvertes à la vérité. Regardez Hérode. Hérode a entendu parler de l'étoile. Hérode a vu ces hommes venus d'une autre contrée, mais il n'a pas fait attention à l'étoile, parce qu'il ne recherchait pas. Il était pris par son intérêt. Par son intérêt, par la recherche de son pouvoir, de la richesse. Alors, il ne s'est pas mis en recherche et il n'a rien trouvé. Tandis que les rois mages, eux, ils étaient possédés par ce désir de recherche et ils ont suivi cette étoile. Cette étoile leur a indiqué l'enfant. Alors quel contraste, ils sont arrivés devant cet enfant qui était profondément faible, mais ils vont avoir l'attitude des bergers de Bethléem. Ils vont reconnaître le signe et adorer l'enfant, et ils vont lui offrir ces dons précieux et symboliques qu'ils avaient apportés avec eux. Et c'est en adorant, en faisant le geste de la confiance, qu'ils vont recevoir cette lumière qui est pleine. Et Benoît XVI, au JMJ de Cologne, avait beaucoup commenté ce passage des rois mages, puisque c'était le thème des JMJ de Cologne. Et il avait dit, les rois mages, après avoir adoré, vont prendre un autre chemin. Physiquement, ils vont prendre un autre chemin, puisque l'ange leur dit, ne repassez pas chez Hérode, enfin bon, voilà. Mais surtout, spirituellement, cela s'explique. Ils vont repartir différents. Ils ont pris le chemin de Dieu. Ils ont trouvé Dieu, et cela l'emmène, les fait qu'ils vont marcher sur un chemin qui est beaucoup plus beau, qui est beaucoup plus grand. Leur vie va être transformée. Alors maintenant, posons-nous cette question. Mais qu'est-ce qui peut nous empêcher... Qu'est-ce qui peut empêcher aujourd'hui l'homme de chercher Dieu, tout particulièrement? Eh bien, tout simplement, Père Bernard, quand on a eu notre retraite de communauté, nous a parlé de Platon avec du mythe de la caverne. Enfin, vous savez, il y a des choses qui se passent en dehors de la caverne et ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'intérieur de la caverne. Voilà. Et en disant, le drame aujourd'hui, c'est que on veut laisser les hommes à l'intérieur de la caverne, les empêcher de regarder à l'extérieur de la caverne pour voir le sens ultime des choses. Et donc, pour cela, on enferme l'homme dans ses ombres et notamment, on lui fait miroiter certaines choses. Et donc, on l'enferme dans le bien-être. Alors le bien-être, c'est pas mal du tout, mais en même temps, on ne parle aujourd'hui que de bien-être, dans le sens que il faut que notre moi soit bien, voilà. Il faut réaliser se réaliser soi-même, s'accomplir, se faire plaisir. Si vous dites, il faut renoncer à sa volonté propre, ben vous allez être suspecté de un peu de masochisme, voilà. On essaye d'enfermer donc l'homme dans son moi. On veut l'empêcher de regarder à l'extérieur. Et on veut l'empêcher de sortir de son moi, c'est-à-dire de faire cet exode nécessaire pour aller voir celui qui est la lumière. Voilà. Et ça, c'est le grand drame, si vous voulez, de notre civilisation actuelle. Et alors pour nous, qu'est-ce qui peut nous aider aussi à trouver Dieu? Bonne confession. Ah oui, certaines fois vous avez des doutes, vous avez du mal à croire. Bien, confessez-vous bien sincèrement et vous verrez que vos doutes pourront disparaître. Ils pourront recevoir une lumière. C'est ainsi que Charles de Foucault, qui avait quand même pas mal cheminé, il cherchait, enfin bon voilà, il n'avait pas la foi, mais quand même il avait vu des gens qui avaient la foi. Il va voir le père Huvelin. Et le père Huvelin lui dit, alors il est inspiré, mais il lui dit ceci, confessez-vous. Oh, j'en ai pas du tout envie. Confessez-vous. Alors quand même, Charles de Foucault va se confesser, et là, il va recevoir une lumière, il va retrouver la foi. Voilà. Bon, alors c'est sûr que le père Huvelin, je pense, a eu une grâce tout à fait spéciale pour lui dire cela. On ne le dit pas à tout le monde, ça c'est évident. Ça c'est évident. Mais c'est quand même un exemple qui est intéressant. Alors, quelques chercheurs de Dieu, Saint Augustin, 354-430, eh bien, Saint Augustin a dit... Je cherchais la vérité et je l'ai cherchée souvent dans la beauté des créatures. C'est vrai que saint Augustin a eu une vie assez dissolue avant sa conversion. Il a eu plusieurs femmes, il a vécu en concubinage. Mais en fait, ce qu'il recherchait ultimement, c'était la vérité. Et il croyait que cette vérité était dans la beauté des créatures. Et puis, un jour... il va comprendre que cette beauté, cette vérité, elle est ailleurs, elle est en Dieu et il va accueillir Dieu. On peut parler aussi de Jacques et Raïs Samaritain. Ils ont vécu au XXe siècle. Jacques et Maritain est mort en 1973 et ils faisaient l'un et l'autre des études à la Sorbonne. Et à cette époque-là, même peut-être un peu aujourd'hui, je ne sais pas, l'université était marquée par le positivisme, par le scientisme. Et voilà que l'un et l'autre cherchaient la vérité. Or, ils ne trouvaient pas, ils désespéraient de chercher la vérité. Et ils s'étaient donné une année en disant, si au bout d'une année, on ne trouve pas la vérité, on se suicide. Voilà. Et de fait, ils ont rencontré Charles Péguy, qui leur a fait rencontrer Henrik Bergson, et ils ont rencontré la foi, ils ont rencontré Jésus, et leur vie a été transformée. On pourrait donner beaucoup d'autres exemples. Je vous donne simplement cet exemple de la petite Sainte Joséphine Bakita, qui est morte en 1947. Elle est née, elle était animiste dans une famille païenne. Et voilà que dans son cœur, dès sa plus tendre enfance, elle sentait Dieu, elle sentait le besoin de Dieu, mais elle ne le connaissait pas. Elle disait, voyant le soleil, la lune et les étoiles, je me disais, qui donc est le maître de cette belle chose ? Et j'éprouvais un grand désir de le voir, de le connaître et de lui rendre hommage. Puis voilà qu'un jour elle est kidnappée, elle va devenir esclave. Et puis, après avoir beaucoup souffert, elle est achetée par le consul d'Italie. Et le consul d'Italie va lui faire connaître, par l'intermédiaire d'une autre famille, Jésus. Et elle va dire, mais Jésus, c'est celui que je désirais. C'est cette lumière qui vient m'expliquer, qui vient tout m'expliquer, qui est le but de ma recherche. Voilà. Alors, pour conclure... eh bien, nous-mêmes, nous devons mettre les hommes en route, c'est-à-dire les aider à avoir le désir de rechercher Dieu. Et plus nous serons pénétrés par la lumière du Christ, par la lumière de la foi, plus nous appellerons les autres hommes à chercher Dieu. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, on vit dans des ténèbres très fortes. Et il y a un avantage quand on vit dans des ténèbres très fortes, c'est quand il y a un peu de lumière, elle se voit mieux. Voilà. Alors, si on accueille profondément cette lumière en nous, eh bien, des hommes qui vivent dans les ténèbres très profondes vont être interpellés par cette lumière. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le problème de nos contemporains, c'est qu'ils ne voient pas suffisamment d'hommes et de femmes qui vivent pleinement de la lumière de Dieu. Voilà. Donc c'est un appel, si vous voulez, à mettre les hommes en recherche et nous-mêmes à recevoir cette lumière du Christ et à la rayonner.